À quoi correspond le royaume de Dieu numéro 7, le trésor caché et la perle de grand prix? L'histoire, lire Matthieu 13h44-46. La parabole du trésor caché forme, avec celle de la perle de grand prix, une autre parabole double, donnant le même enseignement sous deux images différentes. Jésus se servait souvent de ce procédé littéraire, Matthieu 13h31-33, 5h13-16, 6h26-30, 7, 6, 9h16-17. 10h24-25, midi 25, 24h43-51, etc. L'un des avantages de ces paires d'images, c'est qu'elles nous aident à identifier le point central de chaque parabole, on n'a qu'à relever des deux récits les traits communs essentiels. Ici, les deux histoires se rejoignent dans le fait qu'un homme vend tout ce qu'il possède pour acheter un bien précieux qu'il a trouvé. Tous les autres détails font simplement partie de la mise en scène et importent peu pour l'interprétation de la parabole. Il pourrait cependant être utile de nous arrêter sur certains de ces éléments accessoires. 1. L'intégrité de l'acquéreur du champ. Certains lecteurs de ces paraboles s'étonnent de ce que Jésus citerait l'exemple d'un homme qui est moins que parfaitement intègre, qui pourrait être critiqué pour ne pas avoir signalé sa découverte au propriétaire du champ. Mais il faut nous souvenir qu'il s'agit d'un personnage de parabole, créé en vue d'un enseignement particulier. Jésus n'examine pas l'action de l'homme du point de vue moral ou juridique, il cherche simplement à le mettre dans une situation où il doit tout vendre pour acquérir le trésor. D'ailleurs, l'acheteur du champ agit de façon tout à fait légale, car il aurait pu emporter le trésor sans se donner la peine de réunir la somme nécessaire à l'achat du terrain. 2. Les conditions différentes de la découverte. La seule différence entre l'acheteur du champ et le marchand est que celui-ci cherchait ce qu'il a trouvé, tandis que le premier semble avoir découvert le trésor complètement par hasard. Mais il ne faut pas donner à ce détail trop d'importance. L'essentiel, ce n'est pas les circonstances de leur découverte, c'est qu'ils se trouvent, l'un et l'autre, placés soudain devant un trésor d'une valeur inestimable. Quel est donc le jugement que Jésus nous invite à porter sur les actions de ces deux hommes? Était-il insensé, cet homme qui a vendu tout ce qu'il avait pour acheter le champ? Ou ce marchand qui a troqué tous ses biens pour acheter une seule perle? Non. Ce qui aurait pu apparaître comme une folie ou une précipitation imprudente était en réalité la plus grande sagesse. Le contexte, nous avons vu que jusqu'ici dans son discours parabolique, Jésus a développé trois thèmes complémentaires au sujet du règne messianique à venir: l'admission au royaume dépend de la bonne disposition des cœurs, le semeur, le rejet en dehors du règne des Juifs incrédules, l'ivraie, la réalisation du règne universel par le moyen apparemment insignifiant du ministère de Jésus, le grain de moutarde et le levain. Ces trois thèmes ont tous un but commun, faire comprendre aux Juifs que s'ils veulent entrer dans le règne qui vient bientôt, ils doivent s'attacher à Jésus et à sa prédication, sinon, ils seront exclus du règne et subiront le jugement de Dieu. Dans ces deux paraboles-ci, Jésus poursuit le même but, qui, d'ailleurs, anime tout son enseignement relatif au règne, il cherche à amplifier son appel adressé aux Juifs. L'application originelle parmi les paraboles ayant trait explicitement au règne de Dieu, ces deux-ci sont peut-être les plus faciles à interpréter. Mais avant d'en formuler la leçon principale, nous devrions tenir compte des considérations suivantes. 1. La comparaison principale. On ne peut le répéter trop souvent, la formule d'introduction « le royaume des cieux » est semblable à signifie « il en va du règne des cieux comme de ». Le règne messianique n'est pas lui-même comparé à un trésor caché, non plus qu'à un marchand qui cherche de belles perles. C'est plutôt que les deux événements racontés ici nous apprennent quelque chose du règne. Ce qui se passe quand un homme trouve un trésor est comparé à ce qui se passe, ou doit se passer, quand un homme découvre le règne. Ce qui compte dans ces récits, c'est leur signification d'ensemble. 2. Le prix payé pour le trésor et la perle. Dans l'un et l'autre récit, l'objet précieux n'est acquis qu'au prix de tout ce que possède celui qui l'a découvert. Cette parabole peut donc être ajoutée à la longue liste de déclarations où Jésus rappelle en termes sévères le prix qu'il faut se préparer à payer pour entrer dans le royaume. Par exemple, Marc 9h47, « Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu, que d'avoir deux yeux et d'être rejeté dans la géhenne. » Les termes utilisés dans les deux paraboles font penser particulièrement à l'histoire du jeune homme riche. Luc 18h18-25, un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Tu connais les commandements, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de meurtre, ne commets pas de vol, ne dis pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, gardé tout cela dès ma jeunesse. » Jésus, après l'avoir entendu, lui dit, « Il te manque encore une chose, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit cela, il devint très triste, car il était fort riche. En le voyant, Jésus dit qu'il est difficile à ceux qui ont des biens d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Cet homme n'était pas prêt à renoncer à ses biens pour avoir accès au règne de Dieu, pour recevoir un trésor céleste. Il ne s'agit pas, bien entendu, simplement de vendre ses richesses, mais de renoncer à soi-même, d'abandonner tout ce qui empêcherait d'entrer dans le royaume, famille, amis, patrie, argent, maison, même sa propre vie, Matthieu 16h24-28, Luc 14h25-27, etc. Jésus invite ses auditeurs juifs à se procurer le trésor, quel que soit le prix qu'il faut payer. Mais pourquoi consentir à de si grands sacrifices? Cette question nous amène à la troisième considération. 3. La valeur du trésor et de la perle. Ce qui justifie ce renoncement total, c'est la valeur incomparable du règne. Juste après le départ du jeune homme riche, Pierre demande à Jésus quelle sera la récompense de ceux qui auront tout quitté pour lui. Luc 18h28-30, Pierre dit, « Voici nous avons quitté ce qui nous appartenait, et nous t'avons suivi. » Et Jésus lui répondit, « En vérité, je vous le dis, il n'est personne qui ayant quitté, à cause du royaume de Dieu, maison, femme, frère, parents ou enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans ce temps-ci et, dans le siècle à venir, la vie éternelle. » Le passage parallèle en Marc 10h30 dit que cette personne recevrait, au centuple, présentement dans ce temps-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres. Ceux qui entrent dans le règne du Messie hériteraient toutes les anciennes promesses faites à Israël. Ils recevraient non seulement la vie éternelle et toutes sortes de bénédictions spirituelles, mais ils participeraient au règne du Christ sur l'univers entier. Ils seraient en quelque sorte copropriétaires avec lui de la terre, Matthieu 5, 5, et de toutes choses, 1 Corinthiens 3h21-23. Il va donc sans dire qu'il vaut la peine de tout sacrifier pour ce règne-là. Aucun prix n'est trop élevé. L'argumentation de ces paraboles suppose, bien sûr, qu'on sait discerner l'arrivée du règne dans la personne et le ministère de Jésus. C'est là, justement, le hic en ce qui concernait la plupart des Juifs. Jésus a déjà répondu à cette difficulté dans les paraboles du grain de moutarde et du levain. Voir aussi Marc 8h38, 9, 1, où Jésus annonce le jugement des Juifs de sa génération qui auraient eu honte de lui et de sa prédication. 4. L'empressement du marchand et de l'acheteur du champ. Ces deux paraboles attirent l'attention non seulement sur le sacrifice que les deux hommes font de tout ce qu'ils possèdent, mais aussi la raison pour laquelle ils font ce sacrifice avec tant d'allégresse. Ils ont été saisis, subjugués par l'importance de leur découverte. Ils vont tout de suite, avec joie, spontanément, sans hésitation ni regret, vendre tout ce qu'ils ont. C'est ce zèle, cet abandon passionné de soi que Jésus invite ses auditeurs à imiter. Il leur dit en quelque sorte, dans certaines circonstances, il faut savoir faire fi de toute prudence ou hésitation et saisir sur le champ un trésor qui se présente. La découverte du règne de Dieu doit provoquer cet élan de cœur qui pousse l'auditeur à s'attacher spontanément et totalement à Jésus. C'est la leçon de Luc 9, 61 à 62, un autre dit, « Je te suivrai Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière, n'est pas bon pour le royaume de Dieu. Celui qui hésite, qui regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu, il n'a pas les dispositions voulues. » La volonté du vrai disciple doit être tellement subjuguée par l'importance de posséder le règne qu'il ne peut avoir aucun regard pour ce qu'il doit quitter. Un dernier passage nous aidera à préciser le contexte dans lequel Jésus fait cet appel. Luc 16h16, jusqu'à Jean, c'était la loi et les prophètes, depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé comme une bonne nouvelle, et chacun use de violence pour y entrer. Il s'agit ici de violence dans un bon sens, d'un empressement ardent à entrer dans le règne. Depuis la prédication de Jean-Baptiste et de Jésus, qui annonçaient tous les deux la proximité du règne, un certain nombre de personnes croyaient au message et se pressaient avec force et ardeur d'entrer dans ce règne, Marc 10h28-30, Luc 13h24. L'annonce que le règne était proche avait déclenché une sorte de ruée de ceux qui cherchaient premièrement le royaume de Dieu et qui avaient faim et soif de la justice. Le règne était en train d'arriver et Jésus appelait les Juifs à se presser de le saisir, quel qu'en soit le prix. On peut donc exprimer ainsi la leçon des deux paraboles, de même que les deux hommes n'ont pas hésité à vendre toutes leurs possessions pour acheter un trésor précieux, de même les auditeurs de Jésus ne devraient pas hésiter à tout sacrifier pour saisir ce que Dieu leur préparait dans le règne messianique. Le règne n'avait pas encore été établi, mais exigeait déjà une décision urgente et totale, car il arrivait déjà dans la personne de Jésus. Leçon secondaire 1. Ce que nous apporte le règne de Dieu vaut beaucoup mieux que tout ce que nous pourrions investir pour y entrer. 2. Il faut tout vendre, c'est-à-dire renoncer entièrement à tout ce qui nous empêcherait de posséder le règne. Il ne sert à rien de vendre une partie seulement, serait-ce même la plus grande. Le sacrifice qui nous est demandé réside souvent dans cette dernière fraction que nous voudrions garder pour nous-mêmes. 3. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, Hébreux 4, 7.